OK, on commence notre 34e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. Ce soir, on va regarder la réforme dans les pays de langue française et on va examiner de plus près un petit peu la vie de Jean Calvin, qui a vécu de 1509 à 1564. Donc, tout à l'heure, je calculais ça, 55 ans. Il y a eu une vie très remplie pour être mort si jeune. J'avais déjà lu sa biographie. Je dois avouer que c'est un homme qui m'a... je suis rempli d'admiration pour lui, parce que je regarde, il a beaucoup travaillé alors qu'il était très malade, et il était dans des circonstances extrêmement difficiles. Donc, pour persévérer dans des affaires comme ça, ça prend vraiment beaucoup de courage, ça prend vraiment beaucoup de grâce de Dieu aussi. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, ses années de jeunesse et son premier séjour à Genève. Alors, dans notre dernière leçon, on avait étudié comment le Seigneur avait initié la réforme en France et les différentes personnes qu'il avait utilisées. Alors, aujourd'hui, on va examiner comment Dieu a utilisé puissamment le grand réformateur Jean Calvin pour répandre son royaume dans les pays de langue française en Europe, et l'énorme influence qu'il exerça en Europe et ailleurs. Ça, c'est une chose qui me frappe de plus en plus de tout ce que j'étudie dans les Écritures depuis quelque temps. C'est un homme sanctifié, un homme qui obéit au Seigneur, l'influence qu'il peut avoir sur son milieu à son époque, mais aussi l'influence qu'il peut avoir sur des siècles. Quand on regarde, là, 1564, c'est 500 ans après, et il continue d'avoir une immense influence un petit peu partout à travers la Terre. Ses commentaires sont encore utilisés, etc., etc. Alors ça me fait prendre conscience que plus on se sanctifie, plus on peut avoir du rayonnement dans notre milieu, et plus aussi on peut en avoir, même des fois, sur plusieurs générations après notre décès. Alors on va regarder les années de jeunesse de Jean Calvin. Alors, il est issu d'une honorable famille de Noyon, en Picardie, où il naquit le 10 juillet 1509. Jean Calvin fut destiné, dès son enfance, à l'Église. Tout jeune encore, on le voit doté d'une charge ecclésiastique. À Paris, il commença les hautes études dans une école, où il eut pour maître le savant Mathurin Cordier, auquel il confia plus tard la direction du Collège de Genève. Cordier n'adhéra à la réforme qu'ultérieurement, mais il en suivait attentivement l'évolution, et il est très possible qu'il initia son élève aux idées nouvelles. Alors ce pédagogue chrétien s'élevait éloquemment contre les mauvais traitements infligés aux enfants, et il voulait qu'on leur apprît à aimer Christ, à respirer Christ, le nom de Jésus-Christ. Verse-le comme goutte à goutte dans l'âme de tes élèves. Introduis-le. Fais-le pénétrer en elle. C'est ce qu'il disait. Plus tard, le jeune homme fut transféré au collège Montaigu, de tendance plus cléricale, et où régnait un ascétisme sévère et une saleté indescriptible. Erasme y avait étudié jadis, et Ignace de Loyola, qui fonda plus tard l'ordre des Jésuites, y entra l'année même où Jean Calvin le quittait. Il fut aussi en contact avec Robert Olivetan, un des futurs traducteurs de la Bible. Ce fut, dit-on, le premier que Calvin entendit là prêcher ouvertement. Quelques années plus tard, soit pour obéir au désir de son père, qui cherchait à donner à son fils une carrière vraiment lucrative, soit parce qu'il suivait son penchant naturel de son esprit, Calvin abandonna la théologie pour les études juridiques à Orléans et à Bourges. Passionné de cette nouvelle discipline, il fit des progrès si rapides qu'au bout d'un an, dit Théodore de Bèze, on ne le tenait déjà plus pour écolier, mais pour enseigner. Il est très certain que la rigueur des méthodes juridiques convenait à l'intelligence de Calvin, porté à tout envisager sous le signe de la raison. Les règles strictes qu'il imposa dans la suite à la ville de Genève en portent le reflet. Et il fréquenta assidûment les cours de Melchior Vollmar, helléniste éminent, qui interprétait tour à tour les auteurs profanes et, moins publiquement, la Bible qu'il avait appris à connaître en Allemagne. On y trouvait, disait-on, la réponse à tous les problèmes, le remède à tous les abus, le repos pour les âmes travaillées, celle des savants comme celle des gens du peuple. Quelle réaction produisirent sur Calvin les leçons de son érudit professeur? C'est presque impossible à déterminer. Au retour de Luther, qui se complaisait, au rebours de Luther, c'est-à-dire qui se complaisait à narrer ses expériences personnelles, Calvin, imprégné d'une humilité profonde, craignait de porter atteinte à la gloire de Dieu en vantant l'homme, cachant autant que possible ce par quoi il avait passé, disant « Vrai est que je n'aime pas à parler de moi ». Dans la préface de son commentaire sur les psaumes, le seul de tous ses ouvrages où il donne des détails sur lui-même, il se contente de rappeler qu'il fut d'abord, plus que personne, attaché aux superstitions papales, mais aucune date, aucune précision. Voici tout ce qu'il rapporte sur son état spirituel à cette époque. J'étais bien éloigné d'avoir ma conscience certaine. Toutes les fois que je descendais en moi ou que j'élevais mon cœur à Dieu, une si extrême horreur me surprenait qu'il n'y avait purification ni satisfaction qui n'en puisse guérir. Alors, tout au long de la leçon, bien entendu, c'est du vieux français, mais je vais le prononcer à la moderne parce que c'est pas vraiment... On ne parle plus que de cette façon-là de nos jours. Et tant plus que je me considérais de très près, tant plus rude aiguillon pressait ma conscience, tellement qu'on ne me demeurait d'autre confort sinon de me tromper moi-même en m'oubliant. Mais le Seigneur eut pitié de lui. Dieu, quoique je fusse si obstinément adonné aux superstitions papales, qu'il était bien malaisé qu'on pût me retirer de ce bourbier profond, dompta et rangea mon cœur à docilité par une conversion subite, lequel, eut égard à l'âge, était par trop endurci en de telles choses. Ayant donc reçu quelques goûts et connaissances de la vraie piété, je fus incontinent inflammé d'un autre grand désir de profiter, quoique je ne quittasse pas tout à fait les autres études, je m'y employais plus mollement. Autrement dit, il y a eu comme un transfert d'intérêt. S'intéressait plus aux Écritures. Dans l'Épître à Sadolet, Calvin fit figurer un homme du peuple qui raconte sa conversion à l'Évangile de la grâce de Dieu en des termes où l'on entend sans doute un écho des sentiments que l'auteur avait éprouvés lui-même. Une fois la doctrine du salut présentée, moi, offensé de cette nouveauté, à grand-peine ai-je voulu prêter l'oreille, et si je confesse qu'au commencement j'y ai vaillamment et courageusement résisté, une chose y avait qui me gardait de croire ces gens-là, c'était la révérence de l'Église. Quand enfin son esprit s'ouvre à la vérité, étant véhémentement consterné et éperdu pour la misère à laquelle j'étais tombé, et plus encore pour la connaissance de la mort éternelle qui m'était prochaine, je n'ai rien estimé m'être plus nécessaire après avoir condamné en pleurs et en gémissements ma façon de vivre passée que de me rendre et retirer à mon Seigneur et Sauveur. Les amis de Calvin se rendirent bientôt compte du changement qui s'était opéré en lui. On l'avait vu remplacer ses professeurs à l'occasion. On le pressa maintenant d'instruire ceux, et ils étaient nombreux, qui se préoccupaient des vérités éternelles. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, comme ça dit dans le psaume 116, verset 10. Alors cette parole se réalisait pour lui, malgré son caractère timide et fuyant. Voici ce qu'il en raconte lui-même. Avant que l'an passât, tous ceux qui témoignaient quelques désirs de la pure doctrine se rangeaient vers moi pour apprendre, bien que je ne fisse quasi que commencer moi-même. Il en était tout ébahi, d'autant, ajoute-t-il, qu'étant d'un naturel un peu sauvage et honteux, j'ai toujours aimé repos et tranquillité. Je commençais donc à chercher quelques cachettes et moyens de me retirer des gens. Mais tant s'en faut que je vinsse à bout de mon désir, qu'au contraire, toute retraite et lieu à l'écart m'était comme école publique. Le chemin s'ouvrait si clairement devant Calvin qu'il s'y engagea résolument. Il renonça à ses études juridiques, retourna à Noyon pour rompre les derniers liens extérieurs qui le rattachaient encore à l'Église romaine et vint se fixer à Paris, où sévissaient de violentes persécutions. Les chrétiens se réunissaient dans des assemblées secrètes. Calvin y prit une part active, prêchant avec une autorité qui ranimait la confiance. Il terminait volontiers ses discours par ces mots de Romains 8:31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Un catholique militant, ennemi déclaré de la Réforme, Estienne Pasquier, rend témoignage en ces termes à l'infatigable activité de Calvin et à son influence déjà très répandue. Au milieu de ses livres et de son étude, il était d'une nature remuante le possible pour l'avancement de ce qu'il appelait, lui, sa secte. Nous vîmes quelquefois nos prisons regorgées de pauvres gens abusés, lesquels sans cesse il exhortait, consolait, confirmait par lettre, et ne manquait de messagers auxquels les portes étaient ouvertes, nonobstant quelque diligence que les geôliers apportassent au contraire. Voilà les procédés qu'il tint au commencement, par lesquels il gagna pied à pied une partie de notre France. Une circonstance imprévue attira l'attention sur lui. Un de ses amis, Nicolas Copte, recteur de l'Université de Paris, devait, selon l'usage, prononcer un discours dans une église le jour de la Toussaint. Très embarrassé, il pria Calvin de le lui composer. Ce fut, raconte Théodore de Bèze, une oraison tout autre que coutume n'était. En effet, la justification par la foi y était nettement proclamée, au détriment du mérite des œuvres. La Sorbonne s'émut. Cop jugea opportun de s'enfuir à Bâle. Quant à Calvin, dont on connaissait la responsabilité dans cette affaire, il s'échappa par une fenêtre, déguisé en vigneron, et gagna le midi de la France. À peine avait-il quitté la maison que la police faisait une perquisition dans sa chambre et y saisissait tous ses papiers, ce qui entraîna des poursuites judiciaires contre lui. Au cours de l'année qui suivit, il mena une vie errante qui le conduisit à Angoulême, où il séjourna quelque temps chez un de ses amis, puis il passa à Nérac, à la cour hospitalière de Marguerite de Navarre, qui lui fit un accueil très sympathique et chercha à le retenir. Le vieux Lefebvre joignit ses instances à celles de la reine. Farel venait de partir, et le vieillard, découragé, se demandait qui Dieu susciterait pour relever le flambeau de la vérité lorsque Calvin arriva. Les deux chrétiens n'attardèrent pas à se lier d'une amitié profonde, tout en différant d'avis quant à la marche à suivre. Lefebvre croyait en effet à la régénération de l'Église par elle-même et aurait voulu garder son nouvel ami auprès de lui pour collaborer à cette œuvre. Mais Calvin voyait la complète inanité d'une entreprise pareille. Il convainquit Lefebvre qu'il n'exista qu'un remède radical: démolir avant de reconstruire, mettre la hache au pied de l'arbre et l'abattre résolument. C'est pour cette raison que le paisible séjour de Nérac ne convenait pas au jeune réformateur, bouillant du besoin d'agir promptement et énergiquement. Il quitta donc Lefebvre, qui le vit partir avec regret, sachant bien qu'il ne se rencontrerait plus ici-bas, et retourna à Paris pour y rester que peu de temps, car il ne fallait pas attirer l'attention de la police. Le scandale des placards avait provoqué un violent regain de persécution et l'affaire Copte était encore dans toutes les mémoires. Calvin jugea donc opportun de chercher un asile où il put reprendre et continuer tranquillement ses études. Il se dirigea sur Strasbourg, dans le plus grand dénuement. Un des serviteurs qui l'accompagnait s'était enfui en dérobant la bougette, petite sacoche qui contenait le peu d'argent que Calvin possédait. Autrement dit, avant de s'en aller, il s'est fait voler puis s'est retrouvé cassé, comme on dit. À Strasbourg, son ami Bucer lui offrait une hospitalité pleine de charme. Mais Bâle l'attirait plus encore. Il s'y rendit au commencement de février 1535, afin que là, dit-il, je puisse vivre en repos, en quelque coin inconnu, comme je l'avais toujours désiré. Mais le Seigneur ne lui accorda jamais ce loisir propice aux études savantes. Il écrit à ce propos. Cependant que j'avais toujours ce but de vivre en privé, sans être connu, Dieu m'a tellement promené et fait tournoyer par divers changements que toutefois, il ne m'a jamais laissé de repos en quelque lieu jusqu'à ce que, malgré mon naturel, il m'a produit en lumière et fait venir en jeu, comme on dit. En France, les persécutions sévissaient avec violence. Pour les justifier aux yeux des gens mal avertis, on calomniait les réformés en les faisant passer pour des anabaptistes et gens séditieux qui renversaient tout ordre politique. C'est pour les défendre contre ces imputations odieuses que Calvin entreprit de présenter un exposé succinct de leur doctrine appelée « Institution de la religion chrétienne », publié à Bâle, en latin d'abord, dans un petit volume, traduit plus tard en français, puis développé jusqu'à devenir un véritable document, monument d'apologétique. Alors on le sait, l'Institution de la religion chrétienne, ça existe encore. Aujourd'hui, ils l'ont refaite en français moderne, pour ceux que ça intéresse, une grosse brique. Alors, la place manque ici pour analyser, même sommairement, cet énorme ouvrage qui contient un exposé complet, fortement charpenté, de la doctrine évangélique. Quoique sur plus d'un point, il y ait des réserves sérieuses à formuler, il ne faut pas oublier qu'au moment où le livre parut, la réforme en était à ses tout premiers débuts. On manquait des lumières qui nous ont été révélées depuis. Alors le livre « L'institution chrétienne », comme on la dénomme habituellement, rendit aux réformés du 16e siècle des services inappréciables. Elle fut, dans les mains de Dieu, un instrument merveilleux pour fortifier leur foi et les éclairer, car on ne saurait trop y insister, ils avaient tout à apprendre. Dans sa préface, Calvin dédie son ouvrage à François Ier, le roi. La Sûreté ne donna même pas la peine de le lire. Il vaut la peine d'en citer quelques extraits. Alors, on va tout simplement lire la lettre qui est écrite au roi pour montrer au roi que, dans le fond, la religion chrétienne n'était pas ce que ses ennemis prétendaient. Il dit, « Il m'a semblé expédient, écrit Calvin, de faire servir ce présent livre tant d'instructions à ceux que j'avais délibéré d'enseigner, qu'aussi de confession de foi envers vous, sire, afin que vous connaissiez quelle est la doctrine contre laquelle d'une telle rage sont enflammés ceux qui, par le feu et par le glaive, troublent aujourd'hui votre royaume. Bien sais-je de quel horrible rapport ils ont rempli vos oreilles et votre cœur, à savoir qu'elle ne tend à autre chose que à tout règne et police soit ruiné, la police troublée, les lois abolies. Je ne demande donc point sans raison que vous veuillez prendre la connaissance entière de cette cause. J'entreprends la cause commune de tous les fidèles et même celle du Christ, laquelle aujourd'hui est en telle manière déchirée et foulée en votre royaume qu'elle semble être désespérée, car la puissance des adversaires de Dieu a obtenu que la vérité de Christ soit cachée et ensevelie comme ignominieuse et que la pauvrette Église soit ou consumée par mort cruelle ou déchassée par bannissement ou tellement étonnée par menace et terreur qu'elle n'ose sonner mot. Et cependant, nul ne s'avance qui s'oppose en défense contre telle furie. Et s'il n'y en a aucun qui veulent paraître très fort, favoriser la vérité, ils disent qu'on doit pardonner à l'imprudence et ignorance de simples gens, car ils parlent en cette manière, appelant imprudence et ignorance la très certaine vérité de Dieu. Que le roi écoute donc, non pour faire grâce aux victimes, mais pour se convertir lui-même à la vérité, qui ne peut pas devenir claire à qui l'écoute. S'il n'écoute pas, malheur à lui, car on s'abuse si on s'attend une longue prospérité en un règne qui n'est point gouverné du sceptre de Dieu, c'est-à-dire sa sainte parole. Le roi la repoussa, la repoussera-t-il parce que ceux qui la lui prêchent sont des gens, des pauvres gens et de mépris. Pauvres ils sont en effet, mais devant Dieu, comme tous les hommes, en qualité de pécheurs, et c'est pour cela qu'ils s'attachent à cette doctrine qui fait leur force, leur richesse, leur joie, celle du salut par la foi. Doctrine, ajoute Calvin, qui n'est pas nôtre, mais du Dieu vivant et de son Christ. Elle se résume en un seul point, le salut par Jésus seul. Que le roi daigne au moins lire le livre que l'auteur lui présente et son courroux tombera. Paricel, je n'ai prétendu composer une défense, mais seulement adoucir votre cœur, lequel, combien qu'il soit à présent détourné et aliéné de nous, j'ajoute, même enflammé, toutefois, j'espère que nous pourrons regagner sa grâce, s'il vous plaît, une fois, hors d'indignation et de courroux, lire cette note confession. Mais si au contraire, les détractions des malveillants empêchent tellement vos oreilles que les accusés n'aient aucun moyen de se défendre, et si ces impétueuses furies, sans que vous n'y mettiez ordre, exercent toujours cruauté, par prison, fouet, gêne, coupure, brûlure, nous, certes, comme brebis, dévoués à la boucherie, serons jetés en toute extrémité, tellement néanmoins qu'à notre patience, nous posséderons nos âmes et attendrons la main forte du Seigneur, laquelle sans doute se montrera en sa maison et apparaîtra armée, tant pour délivrer les pauvres de leurs afflictions que pour punir les contempteurs qui s'égaient si hardiment à cette heure. Le Seigneur, roi des rois, veuille établir votre trône en justice et votre siège en équité. Peu après la publication de l'Institution chrétienne, Calvin entreprit un voyage sur lequel, malheureusement, nous ne savons que très peu de choses. Répondant à l'appel de la duchesse de Ferrare, Renée de France, fille de Louis XII, il se rendit dans cette ville et noua avec la duchesse des relations épistolaires d'estime affectueuse que seule la mort du réformateur interrompit. Il ne cessa de diriger et d'exhorter sa royale correspondance avec cette franchise admirable et il eut la joie d'apprendre sa conversion peu après qu'elle fut rentrée en France. Peu auparavant, Calvin lui avait écrit « Quoi qu'il en soit, c'est par trop languir, madame, et si vous n'aviez pitié de vous, il est à craindre que vous ne cherchiez trop tard remède à votre mal. Outre ce que Dieu vous a longtemps montré par sa parole, l'âge vous avertit de penser que votre héritage et repos éternel n'est pas ici-bas. Et Jésus-Christ vaut bien de vous faire oublier tant France que Navarre. » C'est à René que Calvin écrivit sa toute dernière lettre le 4 avril 1564. Il lui écrit « Madame, je vous prierai de me pardonner si je vous écris par la main de mon frère à cause de la faiblesse en laquelle je suis et des douleurs que je souffre, je vous prierai aussi de m'excuser si cette lettre est courte auprès de la vôtre. » De Ferrare, Calvin regagna la Suisse en passant par la vallée d'Aoste où l'Évangile se répandait très rapidement. Mais la haine du clergé le contraignit à une fuite précipitée. Traqué de près par ses adversaires, il aurait dû franchir le haut col de la fenêtre de Bagne, mais cette assertion paraît controversée. Puis nous trouvons Calvin à Noyon, où il avait à mettre en ordre des affaires domestiques, sans que nous sachions comment il avait réussi à rentrer en France. Il reprit aussi vite que possible le chemin de Bâle, accompagné d'une de ses sœurs, Marie, et d'Antoine, le seul frère qui lui restait, et allait être le compagnon obscur mais dévoué de sa vie. Il se proposait de gagner Bâle par l'Allemagne, la guerre qui venait de se rallumer entre François Ier et Charles Quint, les en empêcha et les contraignit à suivre la route de France. Telles sont les voies de Dieu. Il conduit ses serviteurs par des chemins qu'ils ne prévoient ni ne comprennent. C'est ainsi que Calvin arriva à Genève. Là, on va regarder son premier séjour à Genève. Au 14e siècle, les bourgeois de Genève avaient acquis des franchises qu'ils défendaient avec une âpreté et une vivacité particulières, soit contre l'évêque, soit contre la maison de Savoie, qui convoitait la possession de la ville, place de commerce intéressante et point stratégique de grande valeur. Deux partis s'y formèrent, celui des Mamelousses, partisans des Savoyards, et celui des Haguenots, leur adversaire farouche. Grâce à l'appui des premiers, le duc parvint à occuper momentanément la vaillante cité, mais les vengeances féroces qu'il exerçait contre ses ennemis les provoquèrent à résistance. Le duc quitta Genève pour ne plus jamais rentrer. Les Genevois conclurent une alliance avec Fribourg d'abord, puis avec Berne. Ce mot, qu'on avait vu tantôt, là, de l'allemand « Eidgenossen », ça veut dire « ceux qui sont liés par serment ». Ça donnait en français le mot « huguenot ». Plusieurs indices donnent à croire qu'à ce moment-là, déjà, l'idée d'une réforme travaillait les esprits. Elle trouvait un terrain propice chez ceux qui redoutaient l'autorité épiscopale et, comme les évêques dépendaient étroitement de la maison régnante en Savoie, on voit que le mouvement religieux se compliquait de tendances politiques. D'autre part, le gouvernement bernois avait confié à Guillaume Farel le soin d'évangéliser les contrées qui lui étaient échues après les guerres de Bourgogne. Il parcourut donc le pays de Vaud, visita Neuchâtel, où Berne prétendait y avoir des intérêts, puis se rendit aux vallées vaudoises du Piémont. À son retour, il s'arrêta à Genève en 1532. Son apparition y suscita un tumulte effroyable. Le clergé qui était nombreux, 300 prêtres et moines pour une population de 12 000, veillait à ne pas se laisser déposséder de son influence. Un témoin oculaire nous renseigne en termes pittoresques sur l'état des esprits. Que vas-tu faisant ça et là, troublant toute la terre? Demandait rudement à Farel, l'orateur des prêtres rassemblés chez le vicaire de l'évêque. Qui t'a fait venir en cette ville? Dis-nous, de quelle autorité prêches-tu? Pourquoi es-tu venu troubler cette ville? Ce n'est pas moi qui ai troublé cette ville, répondit Farel, mais c'est vous autres qui avez troublé non seulement cette ville, mais tout le reste du monde par vos traditions et inventions humaines et vies tant dissolues. À Louis de ses reproches, les ecclésiastiques se précipitèrent sur lui, furieux. « Il a blasphémé, disait-il. Nous n'aurons pas plus faute de témoins, il est digne de mort. Au Rhône, il vaut beaucoup mieux que ce méchant Luther meure que de troubler ainsi tout le peuple. » On tira sur lui un coup d'aquebut, ça doit être un genre de flèche, dans la rue, mais il ne fut pas atteint, au grand regret de l'auteur de ce récit. Deux jours après son arrivée, Farel dut quitter Genève par le lac. Un de ses compatriotes, Antoine Froment, le remplaça. Pour ne pas exciter de soupçons, il ouvrit une école où, tout en enseignant à lire à ses élèves, il leur expliquait les Écritures. Surpris de cette innovation, les parents se mirent à accompagner leurs enfants, bientôt si nombreux que la salle ne put les contenir. Alors Froment sortit dans la rue, et le 1er janvier 1533, il prêcha sur ce texte, de Matthieu 7, 15. « Soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui, au-dedans, sont des loups ravisseurs. » Après cette prédication, les autorités défendirent de prêcher dans Genève sous peine de 3 coups de corde, et Froment fut contraint de s'éloigner en présence de l'irritation que montraient les partisans de l'ancienne tradition religieuse. Pendant un certain temps, le mouvement sembla hésiter, mais Berne lui donna une impulsion nouvelle en déclarant au gouvernement genevois qu'il mettait comme condition au maintien de l'alliance récemment contractée la libre prédication de l'Évangile dans la ville. L'évêque, effrayé, s'en alla. Comme le duc, il ne revint pas. La fermentation religieuse devenait de plus en plus intense. Fribourg, fidèle à ses principes catholiques, rompit avec Genève. Farel s'y présenta à nouveau, accompagné de Viret et de Froment. Ils ouvrirent des débats publics, auxquels, au début, aucun membre du clergé catholique ne daigna assister. L'ignorance des prêtres était telle qu'ils n'osaient pas affronter le combat, car Farel leur opposait inexorablement l'Écriture sainte qu'ils connaissaient encore moins que n'importe quoi. Quelques ecclésiastiques se hasardèrent enfin à entrer en lice, parmi eux un savant dominicain, docteur en Sorbonne. Ce fut sans succès pour lui, pour leur cause, et après 4 semaines de débats, la réforme triomphait à Genève. Farel invitera les magistrats à se prononcer en faveur de l'Évangile. Ne souffrez plus que Dieu soit ainsi offensé dans votre ville. Avisez pour l'honneur de Dieu et jugez juste jugement. Que la cause de Dieu ne soit mise en arrière. Le courant populaire entraîna les autorités plus loin qu'elles ne voulaient aller. Les évangéliques dépouillèrent les églises de leurs ornements avec une vraie frénésie. Le 200 décida que la messe serait provisoirement abolie et le 21 mai 1536, les citoyens réunis en conseil général, par vote unanime et solennel, acceptèrent la nouvelle doctrine. Mais une décision de cette nature, si heureuse fut-elle, ne pouvait transformer les cœurs. La chute du catholicisme ne fit que révéler 2 maux très graves qui avaient envahi la cité, l'immoralité et l'incrédulité. Farel s'y attaqua avec son énergie coutumière, montrant que l'Évangile seul pouvait apporter le remède nécessaire à ce funeste état de choses. Les obstacles se multipliaient du fait que les attaques renouvelées du duc de Savoie contre la ville, toutes les préoccupations allaient aux questions militaires. Mais Farel ne perdait pas courage. Il se sentait tenu de persévérer, de lutter sans trêve ni repos. Si l'œuvre de Dieu devait échouer à Genève, il fallait au moins que le serviteur du Seigneur la soutînt jusqu'au dernier moment. Petit de stature et d'apparence chétive, comme l'apôtre Paul, il grandissait devant les rebelles de toute la hauteur de son indignation et de sa foi. Les yeux se baissaient devant lui. Les murmures l'accompagnaient, mais de loin, et pour se taire encore dès qu'il se retournait. En chair, il ne ménageait rien ni personne. Sa parole roulait comme un tonnerre. Ses invectives pleuvaient à pleine coupe sur les contempteurs de l'Évangile. Mais Viret l'avait quitté pour répondre à un appel qu'il avait reçu de Neuchâtel, et Farel ne se sentait pas de taille à soutenir seul la lutte bien longtemps encore. Ardent batailleur, il démolissait, mais se rendait bien compte qu'il n'était pas l'homme à reconstruire sur les ruines qu'il amoncelait. Comme Luther, il lui fallait un Melanchthon. Au milieu de ses perplexités, il vit un jour accourir chez lui Louis du Tillet, un chanoine à demi-réformé qui avait jadis reçu Calvin à Angoulême. C'est dans la riche bibliothèque de son ami que le réformateur ourdit premièrement, pour surprendre la chrétienté, le trame de son institution chrétienne. Apprenant que Calvin venait d'arriver à Genève, Du Tillet crut devoir en informer Farel. Celui-ci n'hésita pas un instant et se rendit en toute hâte à l'hôtellerie où son collègue était descendu, croyant n'y passer qu'une nuit et repartir le lendemain pour Bâle. Brusquement, Farel exposa le but de sa visite. Calvin avait devant lui une tâche toute indiquée à Genève. À tout prix, il devait s'arrêter, interrompre son voyage, tout le travail qu'il pouvait avoir en chantier. Dieu lui-même lui traçait sans embâge le chemin à suivre. Calvin repoussa la proposition qui lui était faite. Il ne se sentait pas qualifié, disait-il, pour cette charge. Il voulait bien être l'ouvrier du Seigneur dans la grande moisson qui se préparait, au besoin soldat du Seigneur dans la bataille, mais défricher un champ, mais accepter la garde d'un poste déterminé, ce n'était pas son affaire. S'il avait rendu quelques services, n'était-ce pas par un livre, fruit du travail, de l'étude, qu'on le laissa donc aller où il pourrait écrire, en écrire d'autres. Farel insista. Le livre était fait. Quel autre pourrait avoir le commentaire que l'auteur y ajouterait en mettant en pratique les préceptes qui s'y trouvaient déjà consignés? Qui avait le droit d'ailleurs, alors que de toutes parts la trompette sonnait, de dire qu'il n'était pas homme d'action, que sa tâche était d'étudier et d'écrire? La preuve que Dieu attendait de Calvin autre chose, c'était que lui, Farel, se trouvait sur son chemin et lui demandait sa collaboration au nom de Dieu. Là-dessus, Calvin allégua des raisons nouvelles, cherchant, semble-t-il, à rebuter Farel en lui peignant les défauts de l'homme qui deviendrait son collègue. Il se connaissait, dit-il, et il se savait tenace, opiniâtre. Encore une fois qu'on le laissa s'ensevelir dans ses études, là seulement il pouvait valoir quelque chose. Alors Farel déclara, quand il vit, raconte Calvin lui-même, qu'il ne gagnait rien par prière, il vint jusqu'à une imprécation, demandant qu'il plût à Dieu de maudire son repos et la tranquillité d'étude que je cherchais, si en une aussi grande nécessité, je me retirais et je refusais de donner secours et aide. Lequel mot m'épouvanta et ébranla tellement, comme si Dieu eût entendu et eût étendu sa main sur moi pour m'arrêter, que je me désistais du voyage que j'avais entrepris. Toutefois, sentant ma honte et ma timidité, je ne voulus point m'obliger à exercer une charge certaine. Calvin céda donc, mais comme devait céder un caractère de sa trempe, c'est-à-dire avec la profonde conviction qu'il cédait à Dieu et non à un homme. Mais l'homme lui resta toujours cher et vénérable. Il aimait à se rappeler cette scène, cette abjuration épouvantable. Au jour mauvais, il reprenait courage à la pensée de cette main étendue d'en haut pour le saisir et le soutenir. Et au jour heureux, il remerciait le Seigneur de l'avoir choisi et soutenu. Il se la rappela sans doute quand le vieux Farel le vint voir pour la dernière fois, lui plus jeune de tant d'années, mais consumé avant le temps. Farel ne venait plus ce jour-là pour l'arrêter, mais pour lui envier le bonheur du départ auprès du Seigneur et les félicités du repos sans fin. Calvin se trouvait ainsi, contre son gré, fixé sur le champ du travail auquel Dieu le destinait. À part un court intervalle, il y resta jusqu'à la fin de sa vie, soit pendant près de 28 ans, qu'il employa à faire de Genève ce qu'on pourrait appeler la Rome protestante. Il y eut de sérieuses réserves à énoncer sur l'organisation. Il y a de sérieuses réserves à énoncer sur l'organisation qu'il créa toute pièce, toujours en suivant le penchant très logique de son esprit, au lieu de se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. On lui objectait avec raison, selon Jean 6, 63, « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. » Néanmoins, on ne peut qu'admirer et en rendre grâce à Dieu la ténacité avec laquelle il tint tête aux assauts incessants qu'il subit, qu'il repoussa toujours au nom de la vérité, qu'il défendit avec opiniâtreté envers et contre tous. Alors, j'ai mis deux applications. La première, apprenons que la volonté de Dieu doit avoir priorité sur nos goûts et nos projets personnels. Nous ne nous appartenons plus et le Seigneur a tous les droits pour diriger nos vies. Deuxième application, admirons les voies providentielles de Dieu, du Seigneur. La rencontre de Farel avec Calvin fut déterminante pour la suite de la Réforme. Genève joua un rôle essentiel dans la diffusion de l'Évangile. Calvin entendit l'adjuration épouvantable que Dieu lui adressa par la bouche de Farel. Que notre grand, glorieux et souverain Seigneur soit béni, loué et adoré à tout jamais. Amen. Amen.